Bonjour, bienvenue à l'entrevue avec Éliane Duval. Donc, Éliane Duval, aujourd'hui, qui va nous parler de sa pratique. Bonjour, comment vas-tu?
Ça va bien.
Ça vaudrait la peine de faire une petite parenthèse pour indiquer aux gens, donc peut-être comment tu définis la sophrologie, donc avant d'aller plus loin, juste à ta définition.
La définition que je donnerais, c'est la définition qu'on donne classiquement, que Caicedo, le fondateur, en a donnée. C'était une science de l'esprit serein. Il y a une racine grecque qui irait dans ce sens-là. Et science de l'esprit serein, ça ne semble pas toujours aller dans des registres scientifiques, mais néanmoins, il y a tout un parcours, tout un champ expérimental qui a été quand même cadré pour faire cette proposition par le fondateur, qui était un médecin, qui s'appelle Caicedo, je crois.
Quel est ton parcours et puis comment as-tu débuté ta pratique?
J'ai débuté comme sophrologue suite à un long parcours de recherche de ma santé, de retour à la santé pour moi. J'ai eu des problèmes très importants, la maladie de Crohn notamment. Et pendant plusieurs années, j'ai eu à trouver un équilibre à travers ça. Alors, c'est là où j'ai découvert la sophrologie. À cette époque-là, il y avait peu de pratiques psychocorporelles. Quand le processus a été bien avancé, j'ai éprouvé le besoin de faire un grand tournant dans ma vie. Il y a eu notamment, suite à cette pratique de sophrologie et à la pratique de la méditation, il y a eu une remise en cause assez importante de toutes les assises, je pourrais dire, de ma vie, remise en cause du travail que je faisais antérieurement. J'étais enseignante, j'étais prof. En fait, une période qu'on appelle de crise, en règle générale. Je peux dire que pendant un certain temps, j'ai cherché qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire à partir de ces expériences de retour au mieux-être que j'éprouvais. Et mon besoin fondamental était de sentir la vie bien vivante à l'intérieur de moi. C'était ça que je recherchais, de me sentir créative dans mon travail comme dans les autres espaces de ma vie. Et j'avais repris les études en psycho, j'étais plus ou moins satisfaite, j'avais fait une formation professionnelle, notamment en sophrologie. Et à un moment donné, je me suis décidée. J'ai ouvert un bureau à Paris et puis j'avais aussi des activités de groupe en Normandie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et rapidement, j'ai eu du monde qui a été envoyé par notamment des médecins. Cette pratique, je dirais, au début, je n'avais pas. C'était une pratique qui n'était pas bien cadrée au début. On en était encore au balbutiement et tout était inventé. Mais ce que je garde en mémoire, c'est l'attitude d'écoute que j'avais envers les personnes qui sont venues me consulter. Une attitude d'écoute qui était très imprégné de la pratique de méditation que j'avais, qui était issue de la sophrologie. Hein. Et dans cette pratique d'écoute, j'étais non seulement à l'écoute de leurs mots, mais aussi de leur posture, de leur respiration, de ce que je sentais en moi dans l'interaction avec la personne.
Donc, tu nous as parlé, oui, de ta pratique, ton parcours, mais peut-être j'irai vers la question suivante qui était comment se déroule une intervention typique? Donc, maintenant que tu nous as dit qu'est-ce qu'est la sophrologie, donc comment tu la pratiques? Comment se déroule une intervention typique là, actuellement?
Oui, c'est assez difficile de donner une première consultation typique et établir le contact, je dirais, avant tout, dans un premier temps. Et dans cette façon d'établir le contact, c'est bien sûr écouter la personne, qu'est-ce qu'elle vient chercher, qu'est-ce qu'elle attend de ce genre de séance, et essayer de voir avec elle les grandes lignes dans lesquelles on va s'orienter. Alors souvent, je propose une base de sophro qui est la relaxation, mais c'est vraiment une base, c'est pas la sophro comme telle, pour l'aider à entrer en contact avec son monde intérieur et notamment ralentir le mental, l'aider à l'amener plutôt à écouter ce qui se passe quand le mental se ralentit.
Oui, excellent. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'intervention typique pour vraiment s'adapter à la personne, mais il y a aussi une autre couche qui s'ajoute à ça pendant la pandémie. Par contre, la pratique de la sophrologie a continué en temps de pandémie, donc il y a une possibilité à distance, sous certaines réserves, mais j'imagine qu'à distance, ça se poursuit.
Effectivement, j'ai d'ailleurs eu une nouvelle série, si je peux dire, de personnes qui ont consulté face à la peur qui avait envahi pas mal de personnes, face aux inquiétudes, aux angoisses qui se sont soulevées pendant cette période. Et donc, le processus était grosso modo à peu près le même, toujours à partir de l'état de détente. C'était d'amener la personne à observer comment, en relâchant en profondeur, relâchant physiquement, relâchant ses tensions, il y avait un relâchement du mental aussi, et de découvrir ce qui se passait de nouveau, d'être dans l'observation, pas dans l'analyse. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand le mental s'arrête, quand la crispation est moindre, et de s'éveiller en gros aux sensations agréables, ce qui va bien à l'intérieur de la personne. Et ça, c'est important dans la démarche, c'est de mettre le focus sur ce qui est agréable, ce qui va bien, plutôt que dans l'approche classique occidentale, de mettre l'emphase sur ce qui pose problème.
Il y a un tout autre volet, la sophrologie, qui est le côté artistique. Donc, globalement, on est un peu familier quand même avec l'idée d'art-thérapie. Mais tu mentionnes la pratique de l'art comme un complément là, très important à ton travail. Comment l'art et la thérapie peuvent se compléter?
Alors, c'est pas de l'art-thérapie comme tel, hein. C'est une approche que j'ai mise au point progressivement dans le prolongement de ce que nous faisons avec les techniques de sophrologie. Je parlais de la relaxation, mais je n'ai pas encore parlé de tout ce qu'on peut dégager, relâcher, comment les associations mentales se font, comment les sens peuvent s'éveiller. Et il n'y a pas toujours des mots pour exprimer ça. Donc, pour se contacter avec ce que la personne découvre, j'ai proposé progressivement, dans le prolongement des techniques, j'ai proposé de l'argile, j'ai proposé la peinture, j'ai proposé un travail avec la voix, le mouvement, donc des outils dans le prolongement pour faciliter ce qui s'éveille à l'intérieur de la personne. Alors, c'est dans ce sens-là que je l'utilise. Ça ne s'adresse pas à des artistes, mais ça favorise une libération de ce qui est contenu à l'intérieur. Et comme je le disais, il n'y a pas toujours des mots dans un premier temps. Et donc, d'accueillir ce qui se présente sans chercher à le figer, sans chercher à le rationaliser, sans chercher à tout de suite mettre une forme. C'est saisir le plaisir dans le moment.
Parfait, excellent. Puis donc, j'imagine que sur ton site, on peut trouver plusieurs références là, pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, n'est-ce pas?
Effectivement, bon, la plupart des techniques que j'utilise de sophrologie, de relaxation dynamique, sont celles qui m'ont été enseignées. J'ai suivi notamment tout le courant européen de formation de professionnels. Je reste proche de mes collègues européens, notamment les Français, dans ça. Donc, tous les ouvrages publié par la Fédération des écoles de sophrologie professionnelle. Je suis proche de tout ça.
Oui,
Je
donc
suis.
on a une bibliographie sur ton site sophrologie-elianeduval.com et puis je mentionne au passage aussi ton site d'artiste visuel, donc Eliane Duval, artistevisuel.com. Ce sont les deux sites donc, que je peux vous recommander, sophrologie-elianeduval.com. Merci Eliane, donc ça nous a donné une chance de découvrir ton travail, ta pratique. Et puis donc ben, je te souhaite une bonne fin de journée et au plaisir.
Merci beaucoup. Merci Sylvain.
Thank you.